La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous nous rappelez ce matin qu'il existe deux plantes appelées absinthe.
Il existe en effet la petite absinthe Artemisia pontica pour les puristes et la grande absinthe Artemisia absinthium, celle qui nous intéresse aujourd'hui. La grande absinthe, appelée simplement absinthe, est une plante vivace qui atteint généralement 50 à 60 cm de hauteur. On peut en trouver de 1 mètre, mais c'est plus rare. Ses feuilles sont vert argenté sur le dessus et ses fleurs jaunes sont visibles tout au long de l'été.
Et l'avantage avec l'absinthe, c'est qu'elle se plaît sur ou sous tous les sols.
Elle est de culture facile et, vous avez raison, tolère les terres pauvres et rocailleuses. Dans le potager, elle peut être employée comme répulsive contre les fourmis, les chenilles, les mouches et quantité d'autres bestioles considérées comme nuisibles.
Est-ce que vous conseillez pour autant d'en planter beaucoup de l'absinthe ?
Pas vraiment, car si la plante a des qualités, elle a aussi des défauts comme celui d'être allélopathique. Alors, si je vous dis allélopathique, vous vous posez la question, de quoi s'agit-il ?
De quoi s'agit-il ?
Je vous remercie. À savoir que les déchets qu'elle produit nuisent à la bonne germination et à la croissance des autres plantes installées à côté d'elle. Et oui, elle n'aime pas la concurrence. Mmh. Utile pour lutter contre les adventices. Adventices est un joli terme pour définir les plantes dites mauvaises. Beaucoup moins, bien sûr, pour les légumes et les fleurs.
L'absinthe est cultivée depuis toujours.
Les premiers à s'y intéresser sont les Égyptiens qui apprécient ses propriétés médicinales. Ils sont ensuite imités, comme d'habitude, par les Grecs et les Romains. Les Français s'y intéressent aussi et j'ai lu dans un dictionnaire botanique et pharmaceutique publié en 1787, j'adore tous ces vieux ouvrages de médecine et de jardin, alors je cite « qu'elle aide à la digestion, excite l'urine, c'est merveilleux, elle excite l'urine, elle tue les vers, purge la bile et guérit des lièvres. Il paraît même qu'elle réduit les flatulences, je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Il est aussi écrit que le vin qu'on prépare au temps des vendanges avec la grande absinthe fortifie très bien l'estomac, excite là encore mais l'appétit et nuit à la tête et aux yeux quand on en boit trop fréquemment.
Et il aura fallu du temps pour reconnaître les dangers de l'absinthe.
D'autant que la plante contient du méthanol, un neurotoxique redoutable. En 1875, tout le monde est d'accord pour dire que l'absinthe, je parle de la boisson, rend fou les médecins, l'église et même les syndicats. Et pourtant, il faut attendre 1915 pour qu'elle soit interdite dans le commerce avant qu'elle ne soit à nouveau autorisée. Il y a quoi, une petite quinzaine d'années? Mais là, c'est une autre histoire.
On dira aussi tout le bien ou tout le mal qu'a fait l'absinthe sur les poètes, Rimbaud, Baudelaire et autres paradis artificiels.
L'absinthe que l'on appelle également la fée verte. Hein, pas, c'était pas un fait, c'était...
Sur une cuillère avec du sucre.
Tout à fait, c'est quand même un démon.
À présent, vos réponses aux questions des auditeurs de France Inter. Robert vous demande s'il est vrai qu'il ne faut pas composter les feuilles de noyer.
Exact, car la plante est... allélopathique.
Elle n'aime pas la concurrence.
Je viens d'apprendre un terme, vous me permettrez de le réemployer. Elle n'aime pas la concurrence. Alors, pourquoi le noyer n'aime pas la concurrence? Il produit une substance qu'on appelle la juglone. Cette juglone empêche effectivement les arbres de germer à proximité. L'arbre est tranquille, tout ce qui est à proximité du noyer ne peut pas se développer harmonieusement. Donc on ne plante rien sous un noyer, bien évidemment. Il y a très peu de plantes qui tolèrent la plantation à proximité de ce végétal. Peut-être la pervenche de Madagascar. Mais mettre effectivement des feuilles de noyer sur le compost, c'est comme si vous stérilisiez votre terreau, donc à déconseiller fortement.
Michel nous dit qu'il a un bel et grand arbousier centenaire qui semble affaibli par un champignon lignivore. L'arbre présente beaucoup de branches mortes au sommet. Y a-t-il un remède ?
L'arbousier, cet arbuste merveilleux qui nous rappelle les vacances. On en trouve beaucoup dans le sud-ouest, dans le sud de la France. Un arbre originaire, arbre et arbuste originaire du pourtour méditerranéen. L'arbousier produit des arbouses et le nom botanique de l'arbousier est Arbutus unedo. Unedo comme une fois. Donc si vous me demandiez si les arbouses sont comestibles, je répondrais oui, mais non. N'en consommez qu'une seule fois, vous comprenez pourquoi le nom du végétal. Le drame, c'est que les arbres, les arbustes sont des êtres vivants et parfois ils ont des soucis de santé. Et quand il y a un souci de santé, il n'est plus capable de vivre naturellement. Il y a une décomposition du bois qui permet la pénétration des champignons. Et quand le champignon est dans le bois, il va dévorer eh bien la substance. Le champignon que l'on aperçoit à l'extérieur de l'arbousier, c'est la fructification du réseau de mycélium qui est à l'intérieur. L'arbre est condamné, il n'y a rien à faire. On aura beau dire ce que l'on veut, les fongicides sont utile pour les petits champignons. Je vous assure que quand un arbuste laisse apparaître de gros champignons sur l'écorce ou sur les branches, c'est fichu malheureusement.
Henri a un...
Pardonnez-moi, mais de là à le couper, non, peut-être couper la partie...
Le sommet de l'arbre,
oui,
qui est abîmé.
Oui, mais il n'y a pas de danger, l'arbousier fait quoi 7-8 mètres, s'il est très vieux, il n'y a aucun risque de chute.
Henri a un pied de Riops, il souhaite transplanter cet arbre ou cette plante, je ne sais pas très bien d'ailleurs.
C'est un arbuste, magnifique d'ailleurs.
Le Riop. Il veut le transplanter pour le mettre plus en valeur, mais il fleurit presque toute l'année, donc la question de Henri, quelle période serait la plus favorable? Il habite près de Bordeaux.
Oui, l'avantage de ce végétal, ce qu'on appelle également chrysanthémoïdes, c'est qu'il fleurit jaune merveilleusement et il tolère la proximité des embruns, donc bien pratique. Il fleurit tout au long de l'année, c'est vrai, mais il a tendance à réduire sa floraison à partir d'octobre-novembre. Ce sera donc le moment idéal pour transplanter effectivement le Riops.
Une remarque pour terminer, celle de David qui rappelle que le 4 novembre, Alain, vous avez parlé des conifères qui brunissent et qui généralement meurent inexorablement. Eh bien, dit David, il existe une exception, c'est la tordeuse grise du mélèze. L'arbre brunit comme s'il était en train de mourir, mais en fait, il ne meurt pas.
Oui, mais le mélèze, lui, est un conifère caduc qui perd ses aiguilles tous les ans à la fin de l'été, en automne. Il a donc la faculté de refaire simultanément de nouvelles branches, de nouvelles feuilles. C'est ce qu'il fait d'ailleurs quand il est attaqué par la tordeuse. Effectivement, il va reproduire des feuilles très rapidement. Il est donc fatigué par les attaques, mais il n'est pas mort.
Un conseil pour terminer, un conseil lecture aujourd'hui.
Un très joli conseil, il s'appelle Cordillac. Il est artiste peintre, il aime les arbres. Il a tout simplement publié ses œuvres, accompagnées de textes sublimes, de grands noms de la littérature qui évoquent l'arbre avec talent. Donc c'est véritablement bien fait, c'est très joli. C'est publié aux éditions du Contrefort, 24€. Donc c'est l'artiste Cordillac.
J'adore quand vous donnez le prix.
Oui, parce que c'est important. Parce que aujourd'hui les gens ont du mal à vivre, on le sait, on voit les mouvements sociaux d'ailleurs. Et j'aime bien indiquer le prix pour dire si vraiment on peut se l'offrir ou pas. Donc un très bel arbre, très coloré.
Un très beau livre.
Un très beau livre, oui. Et puis on voit qu'il y a du talent, que cet homme sait parler aux arbres. Hein. Et puis il cite des grands noms comme Gaston Bachelard qui dit « L'arbre droit est une force évidente qui porte une vie terrestre au ciel bleu ».
Merci Alain Baraton. La main verte, ce sera demain également.
Avec plaisir.